Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des situations assez complexes, hein. Gouvernance, droits humains, responsabilité politique en Afrique. On va s'appuyer sur des articles d'Africa Press du 10 mai.
Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment d'aller voir un peu derrière les titres. On va parler Congo-Brazzaville, Burundi, Sénégal, Tchad.
Exactement. Pour essayer de comprendre un peu mieux les enjeux du moment.
Et voir comment ces différentes situations peuvent parfois se faire écho malgré les contextes très différents.
Alors commençons par le Congo-Brazzaville. Il y a cette affaire autour du parc national d'Otzala-Kokwa, géré par African Parks.
Oui, et c'est pas une petite affaire. Des membres du peuple Baka accusent les éco-gardes de violences graves. On parle de torture, d'agressions sexuelles. C'est très lourd.
Ah oui, quand même. Et African Parks, ils disent quoi?
Suite à une enquête externe, ils ont reconnu des défaillances. Ils ont exprimé des regrets. Mais bon, ça met en lumière une tension classique, en fait.
La tension entre protéger l'environnement et...
Et les droits des populations locales, oui.
Surtout les peuples autochtones qui voient leur accès aux terres, à leurs ressources, restreints. Survival International, d'ailleurs, alerte là-dessus depuis longtemps.
C'est ça, ils soutiennent les victimes et dénoncent ces pratiques dans le bassin du Congo. Ce qui est interpellant ici, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de critiques, même envers d'autres grandes ONG. Ça pose question sur le modèle même de cette conservation, parfois un peu,
un peu verticale.
Sécuritaire, voilà, sécuritaire, et qui a du mal à intégrer vraiment les communautés locales. Pour African Parks, l'image et la crédibilité sont en jeu, c'est sûr. Ils vont devoir revoir des choses.
Clairement. Bon, on change de pays, on va au Burundi. Là, c'est le contexte politique qui est tendu avec le lancement de la campagne électorale.
Oui, législative et communale prévue le 5 juin. Le pouvoir a lancé ça en grande pompe, mais... Mais les principaux partis d'opposition boycottent. La coalition Burundi-Boabose, le CDP d'Anice Nyankuru, ils n'y vont pas.
Et pourquoi ce boycott? Quelles raisons ils donnent?
Ils dénoncent un manque de liberté, des pressions policières, un climat de répression générale. Il parle carrément de démocratie de façade.
Pourtant, le président de Ndayishimiye, lui, parle d'unité, de renforcement de la démocratie.
Oui, il y a un décalage énorme entre le discours officiel et le ressenti de l'opposition. Et faut dire que depuis 2020, les accusations de restriction des libertés, d'opposition muselée, elles sont récurrentes. Des figures comme Agathon Rwasa en étaient écartées, par exemple.
Donc, un scrutin sans les principaux opposants?
Bah oui, ça pose forcément la question de l'équité, de la représentativité de ces élections. Est-ce qu'on peut parler de vraie compétition électorale, ça interroge sur la réalité de l'ouverture démocratique affichée par le pouvoir.
Cette question de crédibilité, de responsabilité, elle nous amène au Sénégal et au Tchad. Au Sénégal d'abord, avec des poursuites contre d'anciens ministres.
C'est ça, 5 anciens ministres de l'époque Macky Sall sont poursuivis devant la Haute Cour de Justice. L'accusation porte sur des détournements présumés des fonds Covid-19.
Et le parquet de Macky Sall, l'APR, comment il réagit?
Alors, par la voix de Maître Sidiki Kaba, ils insistent sur le respect de la présomption d'innocence et demandent un procès équitable. C'est classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils refusent de participer au dialogue national prévu fin mai.
Ah oui. Pourquoi?
Ils disent qu'ils subissent des pressions politiques. Ils parlent même d'avoir un revolver pointé sur la tempe. Ça montre bien la polarisation et la tension qui règnent actuellement.
C'est tendu. Et puis, il y a le Tchad. Là aussi, une affaire de responsabilité, mais différente. La condamnation d'une personnalité proche du pouvoir.
Oui, et pas n'importe qui. Idriss Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, il a pris 5 ans de prison pour corruption passive.
Corruption passive, c'est-à-dire?
En gros, avoir accepté des avantages pour faire ou ne pas faire quelque chose lié à sa fonction. L'affaire est assez complexe. Ça tourne autour de contrats d'infrastructure apparemment dans la province de l'Enedi qui n'auraient pas été réalisés.
Mais il y a plus que ça, non?
Oui, il y avait déjà un mécontentement au sein du cercle du pouvoir. On lui reprochait sa gestion de certains dossiers, comme les relations avec le Soudan. Il avait déjà été suspendu en 2022, puis réintégré.
Et là, qu'est-ce qui a fait basculer les choses?
Alors, l'élément clé, d'après les informations, ce serait une intervention des Émirats Arabes Unis. Ils auraient exigé sa tête, si on peut dire, pour des détournements d'aide humanitaire qu'ils finançaient. Son arrestation a été assez discrète, d'ailleurs.
On voit bien 2 cas très différents. Sénégal, point. Des comptes à rendre après un changement de régime. Tchad, point. Une affaire qui révèle des luttes internes, avec une possible influence étrangère très directe.
Exactement. Ça illustre bien comment la lutte contre la corruption et l'impunité peut prendre des formes variées. Parfois c'est lié aux alternances, parfois ça montre les fissures au sein même d'un régime en place, et parfois oui, des acteurs extérieurs jouent un rôle non négligeable.
Alors, si on essaye de prendre un peu de recul sur tout ça, Que ce soit la conservation et les droits au Congo, l'espace démocratique au Burundi ou la responsabilité des dirigeants au Sénégal et au Tchad.
On voit bien que ce sont des défis fondamentaux. Hein. Comment concilier des objectifs parfois contradictoires? Comment assurer une vraie participation citoyenne? Comment garantir que les ressources publiques servent vraiment l'intérêt général?
Et que la justice fonctionne de manière indépendante.
Tout à fait. La question qu'on pourrait laisser en suspens peut-être, c'est comment s'assurer que toutes ces initiatives, qu'elles soient internationales ou nationales, pour le développement, la conservation, la stabilité, comment faire pour qu'elles placent vraiment la transparence et les droits des gens au centre?
Plutôt que de servir des jeux politiques ou d'aggraver les inégalités.
Exactement. Éviter que ça ne soit instrumentalisé ou que ça ne renforce des déséquilibres déjà présents. C'est un peu l'enjeu permanent, quoi.